Je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente Jocelyne Dazé, agente culturelle à la direction de la programmation. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Mme Nathalie Watten, professeure de littérature à l'Université de Sherbrooke et responsable du groupe de recherche sur l'œuvre d'Anne Hébert. La conférence de Mme Watten, intitulée « Les lectures d'Anne Hébert », porte sur l'influence exercée par certains auteurs sur l'œuvre d'Anne Hébert et permettra de faire ressortir quelques conceptions esthétiques l'ayant inspirée. Une période de questions suivra la communication de notre invité. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Watten. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Alors, bonsoir à vous. Avant de commencer, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Jocelyne Dazé, qui est responsable des programmes de conférences ici, et à Benoît Fredette, qui m'a aidé pour la diffusion des images que je présenterai ici ce soir. Je voudrais aussi remercier le service des archives de l'Université de Sherbrooke et plus particulièrement l'archiviste Julie Fecteau, sans laquelle je n'aurais pas pu vous montrer quelques pages manuscrites d'Anne Hébert. Alors voilà, mis à part de rares discours prononcés à l'occasion de la remise de prix littéraires, repris ensuite en guise de liminaire dans des recueils de poèmes, Anne Hébert a fait paraître peu d'écrits théoriques ou critiques sur la littérature et de confidences sur ses lectures. Lorsqu'elle décide de rentrer au Québec en 1997, après une quarantaine d'années passées en France, elle rapporte à Montréal près de 2000 livres qui vont constituer sa bibliothèque privée durant les trois dernières années de son existence. Ouvrage aujourd'hui conservé au Centre Anne Hébert ou au service des archives de l'Université de Sherbrooke. Ces livres, dont plusieurs sont dédicacés, mais très peu sont annotés, nous renseignent sur les lectures qu'elle privilégiait alors. Laure Miranda prépare un mémoire de maîtrise à l'Université de Sherbrooke sur le contenu de cette bibliothèque qui nous permettra de mieux saisir les réseaux de sociabilité littéraire d'Anne Hébert et les traces retrouvées dans ces livres, c'est-à-dire dédicaces, annotations et soulignements. Aussi, de 1945 à 1999, Anne Hébert a consigné des impressions d'ensemble dans des lettres à ses frères, Jean et Pierre, ainsi que dans des carnets qui l'ont accompagnée durant les périodes d'écriture de ses romans et recueils de poèmes. On retrouve dans ses carnets des notations sur l'écriture, ainsi que des citations d'auteurs, Kafka, Proust, Jouve, Claudel et certains passages de la Bible, entre autres. Anne Hébert a également exprimé des idées sur l'art et sur la littérature dans des entretiens accordés à des journalistes ou lors d'entrevues diffusées à la radio ou à la télévision. Dans ma conférence, j'aborderai les lectures d'Anne Hébert à partir de ses documents, sous un angle particulier, en tentant de départager, autant que faire se peut, les lectures de jeunesse de celles de la maturité. J'espère ainsi montrer que si certains écrivains, pour la plupart poètes, ont exercé une grande influence sur ses premiers écrits, d'autres auteurs, dont les lectures ont été plus discrètes ou tardives, ont aussi inspiré sa démarche, son style et ses idées sur l'écriture. D'abord en famille. Anne, Jean, Marie et Pierre, les quatre enfants vivants de Maurice Hébert et de Marguerite Marie Taché, reçoivent une partie de leur éducation à la maison, de leurs parents et d'une institutrice privée, jusqu'à l'âge de 10-11 ans dans le cas d'Anne, l'aînée de la famille. Au moment de poursuivre ses études au Collège Notre-Dame de Bellevue et Mérici de Québec, Anne Hébert est une lectrice assidue et curieuse déjà des grands classiques européens pour la jeunesse. Elle a lu des contes d'Andersen et de Perrault, de même que les histoires terribles pour les petites filles mises en scène par la comtesse de Ségur. Ces lectures seront bientôt remplacées par celles, autrement effroyables, écrites par Charles Dickens et Edgar Allan Poe. Ces lectures alternent avec d'autres histoires de filles qu'elle peut lire dans la revue française La Semaine de Suzette, destinée aux fillettes de 8 à 14 ans, et qu'elle retrouve avec plaisir à l'âge de 30 ans. De telles lectures vont dans le sens de l'éducation privilégiée par le père, Maurice Hébert, fonctionnaire, critique littéraire et poète, membre de la Société royale du Canada, qui fait à ses enfants la lecture d'extraits de Don Quichotte et de Maria Chapdelaine. La mère, Marguerite Marie Taché, est restée très nostalgique de Paris depuis qu'elle y a séjourné durant sa jeunesse et elle transmet aussi à ses enfants le goût des contes, du théâtre et de la musique. Anne Hébert se souvient elle-même avec beaucoup de nostalgie d'une scène décisive de son enfance qu'elle note dans un carnet le 16 mars 84 et je cite « C'était l'heure bénie, entre 4 et 5 heures un peu avant le souper, où ma mère se reposait un peu et où les autres enfants, à peine rentrés, très pris par leur jeu retrouvé, ne s'apercevaient pas de mon absence. Sans élever la voix, son fin profil levé, son regard fixé au loin sur quelque chose d'éminemment tangible et réel que je ne pouvais voir, ma mère me parlant de Paris, avec la même nostalgie prenante, la même légère brisure du cœur passant dans sa voix que si elle avait évoqué le paradis perdu. » Toute sa vie, Anne Hébert vouera une affection particulière à la littérature européenne, surtout française, et restera attachée à ses lectures d'enfance et d'adolescence qui se révéleront déterminantes pour son activité créatrice. Parmi les archives qu'elle a léguées, on retrouve le dactylogramme ancien d'une liste de livres portant le titre de « Livre étagère de papa », qui atteste d'un sentiment filial prononcé. Les références y sont données sous forme de rubriques, poèmes français, poèmes anglais, littérature anglaise, littérature française, classique français, littérature espagnole, littérature canadienne, histoire du Canada, grammaire, études, dictionnaire, histoire naturelle, suivi enfin de livres religieux. Parmi les recueils de poèmes français et anglais, on peut noter trois titres de Verlaine, un de Lamartine, un de Chénier, un d'Aragon, un de Valéry, un de Ségalène, un de Peggy, un de Lébègue, un inconnu dont le Robert ne reconnaît aujourd'hui que le mathématicien, deux de Maritain, plutôt un philosophe qu'un poète, d'autres titres, ceux de Tennyson, Milton, Yeats, et entre autres classiques, mentionnons Bernanos, Mauriac, Éluard, Corneille, Racine et Dante, et parmi les ouvrages canadiens, Menon, Maître Draveur, Maria Chapdelaine. Enfin, quelques livres religieux, parmi lesquels la Sainte Bible. Comme elle le confiera en entrevue à Donald Smith au début des années 1980, « Enfant, j'ai lu beaucoup de contes de fées et j'ai lu ce qu'on appelait à l'époque l'Histoire sainte. » Dans sa bibliothèque à elle, on retrouve différents ouvrages sur la sorcellerie et diverses versions de la Bible qui lui ont été très utiles au moment de composer des romans comme « Les enfants du sabbat » paru en 1975 ou « Les fous de Bassan » en 82. Cette bibliothèque nous apprend également qu'elle possédait plusieurs romans, pour la plupart de format poche et d'auteurs européens, parmi lesquels près d'une quarantaine de romans policiers de Georges Simenon, des recueils de poèmes français ou québécois, des livres sur l'art, sur la religion et d'autres essais. Mais revenons-en aux lectures de formation d'Anne Hébert. Adolescente, elle aborde de front les romanciers de la seconde moitié du 19e siècle et du 20e siècle, tels que Balzac, Dostoïevski, François Mauriac, dont Saint-Denis Garneau écrit dans son journal en 1935 qu'il n'est pas, je cite, « allé jusqu'au bout, contrairement à Bernanos ou à Claudel, sur la route de Peggy ». On a beaucoup parlé des lectures de romans catholiques par les Canadiens français de l'entre-deux-guerres, mais a-t-on vu assez comment Mauriac, à l'instar d'autres romanciers français de la même époque, semble retardataire aux yeux d'un Saint-Denis Garneau qui le compare à Baudelaire, beaucoup plus lucide, lorsqu'il s'agit de jeter sur le mal une lumière impitoyable. Mais tout comme Anne Hébert et d'autres jeunes gens cultivés des années 30-40, Saint-Denis Garneau lit ses classiques. À Sainte-Catherine de Fossambeau, située à 40 km de Québec, où l'été, il se retrouve en famille, Anne Hébert joue avec ses frères, sa sœur, ses cousins et leurs amis des pièces de Molière ou de Labiche. Aussi se lie-t-elle d'amitié avec un camarade de Saint-Denis Garneau, Jean Lemoine, qui a beaucoup influencé ses lectures. Ces années passées avec Saint-Denis Garneau et les siens sont de très intenses périodes d'incubation où elle fait la découverte de la poésie moderne, aussi bien celle de Victor Hugo, de Charles Baudelaire et d'Arthur Rimbaud, que de Pierre-Jean Jouve et de Paul Claudel, des auteurs qui ne sont pas prêts de la quitter. La première grande rencontre avec la poésie d'Anne Hébert a lieu avec le bateau ivre de Rimbaud, dont vous voyez ici les trois premières strophes, poème qu'elle découvre par hasard dans le texte d'un conférencier. En entrevue, elle reviendra à diverses reprises sur l'influence déterminante qu'a exercée sur son écriture ce texte et d'autres écrits du jeune poète. Rimbaud est tantôt nommé dans ses romans, tantôt ce sont des citations, des allusions qui témoignent de son engouement profond. Pour elle, la lecture du bateau ivre constitue une véritable révélation, celle de l'énergie vitale du poète qui communique avec les forces de la nature et du cosmos. Anne Hébert a sans doute été sensible au départ triomphant du jeu, à ses transports de joie dans ce poème, mais aussi bien à l'impossible liberté qui se trouve formulée à la fin du poème, à la nostalgie d'un chez-soi et de l'Europe, comme on peut le constater dans les trois dernières strophes. Donc, cette nostalgie de l'Europe est très importante pour elle. Quelques années plus tard, Saint-Denis Garneau lui prête les cinq grandes odes de Claudel, qui sera une deuxième grande rencontre poétique, sur laquelle elle reviendra souvent, accordant tantôt de la valeur aux formes et aux idées esthétiques de l'écrivain, à sa poésie comme à son théâtre, tantôt du mérite au parcours spirituel et mystique de celui qui fut l'émule de Rimbaud, qu'il a trop vite fait de qualifier de mystique à l'état de grâce. Alors, vous avez ici un passage de la troisième ode. En 1984, au moment où elle envisage d'écrire le récit de Camille et Paul Claudel, elle prendra ses distances par rapport à cette figure emblématique des lettres françaises du début du XXe siècle, ce qui ne l'empêche pas pour autant de s'inspirer encore de citations de Claudel dans le carnet qui accompagne l'enfant chargé de songes au tout début des années 90. Mais à 20 ans, Claudel est pour elle encore le poète de l'énergie et des choses invisibles. À côté de celui-ci, Proust paraît bien statique. Elle dira la grande joie que lui inspirent les cinq grandes odes. Et je la cite. En dessous de la rhétorique, il y avait toujours cette espèce d'ivresse du monde et de la vie. Elle ne retrouve que chez Shakespeare un dynamisme, une passion aussi remuante. De la construction polyphonique de l'ensemble, elle se souviendra, tout comme des forces du mal dans le monde et dans l'œuvre, au moment de composer 50 ans plus tard son grand roman « Les fous de Bassin ». Dans ses archives manuscrites, elle commente aussi la pièce « Tête d'or » dont Claudel a écrit une première version 3 ans après sa conversion au catholicisme, soit en 1899. De ce drame lyrique, elle retient surtout le thème de la crise personnelle. Je cite « Tête d'or se débat dans les filets invisibles de Dieu, et ces filets sont d'autant plus impressionnants et surnaturels qu'ils demeurent invisibles. » L'ardeur qu'elle prête à ce poète et l'énergie créatrice qui émane de ses textes sont, tout comme ce fut le cas pour Rimbaud, associés pour elle au mystère. Mais le parcours spirituel, cette fois, est une expérience de la grâce. Malgré ses lectures très stimulantes, une telle ferveur semble absente de son premier livre à elle, le pourtant si religieux recueil de poèmes « Les songes en équilibre » qui paraît aux éditions de l'Arbre en 1942, sous les auspices de Claude Urtubise, un ami de Saint-Denis Garneau et un membre fondateur de la revue La Relève. Mais les choses sont appelées à changer durablement. Le chercheur et critique littéraire Bernard Hu a observé que le poème dramatique qu'elle compose entre 45 et 46, L'Arche de Midi, qu'elle n'a jamais publié, paraît, et je le cite, une réécriture de l'annonce faite à Marie, une autre pièce de Claudel. Aussi, le motif du mystère et le verset claudélien vont jouer un rôle très structurant dans plusieurs poèmes écrits dans les années 53 à 58, qui paraissent ces années-là dans les revues canadiennes et françaises et qui seront bientôt repris dans le recueil « Mystère de la parole », l'un des diptyques composant avec le tombeau des rois son recueil « Poèmes » paru en France aux éditions du Seuil en 1960. Entre 1934 et 1938, Saint-Denis Garneau lui fait connaître différents écrivains européens, tels que Pierre Réverdy, Charles-Ferdinand Ramuse et Jules Supervielle. Ces deux derniers valorisent aussi les forces vives de l'existence et n'ont pas peur d'aller du côté du surnaturel pour montrer l'être humain fragile devant les forces obscures du cosmos qui le dépassent. De Supervielle, elle retiendra l'attention portée aux grands espaces américains et l'expression limpide de la solitude anxieuse. Elle rendra à son tour et de manière toute personnelle l'isolement de la personne, en la situant aux prises avec ses impulsions intérieures et bravant les forces de la nature, notamment dans la nouvelle Le Torrent, qu'elle rédige en 1944-1945 et qui donnera son titre au recueil qu'elle compose en 1947, recueil qui paraîtra à l'enseigne de la librairie Beauchemin en 1950. Si les écrivains qu'elle a lus dans sa maturité l'ont impressionnée, comme elle le dira à plusieurs reprises en entrevue, ceux qui ont influencé son œuvre, elle les a lus donc pour la plupart avant 20 ans, comme l'a montré récemment Marie-André Lamontagne. Parmi ceux et celles qui ont exercé une influence durable, Saint-Denis Garneau occupe une place à part. Quant à l'hiver 37, celui-ci publie à compte d'auteur le recueil de poèmes « Regards et jeux dans l'espace », Anne Hébert a 20 ans. Pour elle, la lecture des premiers poèmes de Garneau est une révélation, un éblouissement. Sur le plan textuel, l'influence est manifeste, surtout dans des poèmes qui composent le recueil « Le tombeau des rois » en 1953, où le thème de la solitude, le motif des eaux et la forme dépouillée sont centraux. En plus d'être cousins, Anne Hébert et de Saint-Denis Garneau appartiennent à la même famille d'esprit, comme l'a observé Gilles Marcotte dans la préface qu'il a signée à la traduction anglaise des poèmes de Saint-Denis Garneau et Anne Hébert par Frank Scott, publié à Vancouver chez Clanac Press en 1962. Un article récent d'André Brochu, paru dans Les Écrits, trace un certain nombre de rapprochements entre les écritures poétiques de Saint-Denis Garneau et d'Anne Hébert, à commencer par un même souci de construire l'ensemble du recueil selon une nette marche vers le sombre et le profond. En dépit de cette avancée commune dans la nuit, une différence est observée par Brochu lorsqu'il voit le moment du négatif chez Hébert comme un passage obligé dans la quête du positif et une traversée des signes au terme de laquelle on peut noter une intériorité plus vivante que dévastée. S'il y a une lucidité commune aux deux poètes quant à leur vue sur le tragique, inhérent à la condition humaine privée du secours de Dieu, Hébert, dans ses écrits ultérieurs, subsumerait le désespoir de la personne en espoir tourné vers le jaillissement de la vie, qui creuse un écart entre deux poétiques, du fait notamment qu'elle a vécu et écrit beaucoup plus longtemps que Garneau. S'il paraît juste de situer ainsi poème d'Anne Hébert par rapport à Regards et jeux dans l'espace de Saint-Denis Garneau, qu'en est-il de la lecture faite par Anne Hébert de la démarche artistique et de l'œuvre picturale de son cousin, le seul écrivain pour lequel, à différents moments de sa vie, elle acceptera de rédiger quelques lignes? Comment explique-t-elle le désespoir, mais aussi la lumière que, très jeune, elle perçoit dans le cheminement artistique de son aîné, qui est pour elle très légitime? Une lettre à son frère Pierre, écrite 2 ans après la mort de Saint-Denis Garneau, soit le 10 décembre 1945, répond en partie à la question. Au moment où elle dit aimer beaucoup Peggy, elle risque un commentaire sur Saint-Denis Garneau. Je la cite. Je pense au soldat Peggy tombé pour la France. Je pense aussi à de Saint-Denis, à la solitude de sa mort sur la grève de Sainte-Catherine, au dépouillement total et à la nuit de la joie de ses dernières années. La rançon du don total est totale aussi. Je songe à l'immensité de la joie à laquelle il est convié maintenant. Que ce soit de façon implicite, comme lorsqu'elle campe un jeune solitaire rêveur qui s'émeut de la clarté du jour, ou explicite, comme lorsqu'elle fait état de la vision de l'artiste Saint-Denis Garneau, Anne Hébert a parlé publiquement de son cousin à diverses reprises, parfois non sans colère contre l'austérité morale religieuse de l'époque. Elle l'a fait à l'occasion d'un témoignage paru en 1944 dans La Nouvelle Relève, en 1958 dans le scénario et le commentaire du film Saint-Denis Garneau et le paysage de Louis Portugais, qu'elle a écrit pour l'ONF, et en 1993, dans la préface qu'elle signe à l'occasion de l'édition de luxe de Regards et jeux dans l'espace. De tous ces textes ressort l'offrande de l'artiste, rendue possible par son intense regard comme véritable moyen de connaissance. L'éveil à la littérature et l'intérêt profond pour l'écriture d'Anne Hébert ne sont pas étrangers non plus aux idées véhiculées par Saint-Denis Garneau et ses amis de la relève, qui vont marquer l'évolution de la jeune écrivaine, au point qu'elle se détourne du religieux pour mieux embrasser le mystère. En 1934, Paul Beaulieu, Robert Charbonneau et Claude Urtubise fondent la revue La Relève, à laquelle vont bientôt collaborer Robert Élie, Hector de Saint-Denis Garneau et Jean Lemoine. Proches de la revue française Esprit, ces jeunes gens qui ont étudié au Collège Sainte-Marie aspirent à un renouveau spirituel et célèbrent les forces et les responsabilités personnelles par lesquelles un individu s'assure de sa présence au monde. Dans le texte « Une si profonde amitié » qu'elle a écrit en hommage à l'essayiste et ami Jean Lemoine, plus de 50 ans après l'avoir connu, elle affirme, et je cite, « À la longue, j'en vins à partager certaines lectures de Jean et à les aimer avec lui. Baudelaire, Racine, Tchekhov, Proust, Molière, Bach et les mystiques, la Bible, sans oublier au passage Freud et les mystères de l'inconscient. Et voilà que le Dieu de Jean Lemoine se révélait à moi, différent du Dieu étriqué de l'école et de l'église paroissiale auquel j'étais habituée. Longtemps, je me suis souvenu qu'un jour, Jean avait su me donner de Dieu une image haute et forte. » Outre le fait qu'il l'ait initié à des lectures aussi décisives, dont la plupart l'accompagnent tout au long de sa vie, comme en témoignent plusieurs passages de ses carnets et romans, Jean Lemoine a pour elle des égards et une sollicitude qui la touche. Elle fréquentera beaucoup Gertrude et Jean Lemoine au Québec comme aux États-Unis. Profonde et littéraire, cette amitié durera jusqu'à la mort de ce dernier en 1996. Ainsi, affirmera-t-elle en 1998, « Il n'y a pas une ligne de ce que j'ai pu écrire, sauf les derniers poèmes pour la main gauche, que Jean ait accueilli et commenté avec une attention fraternelle et toute l'exigence d'un homme pour qui la littérature demeurait une sorte d'absolu, aussi sacré que l'âme même de la vie. » Les lectures qu'elle a faites à 30 ans la sollicitent autrement, moins durablement en tout cas. Ainsi, la série de lettres qu'elle écrit à son frère Pierre entre 45 et 47, année où ce dernier étudie au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, nous renseigne sur ce point. Sur une carte postale, datée du 29 octobre 1945, elle écrit qu'elle a lu Poil de carotte, qu'elle lit un livre sur Valérie et la métaphysique. La correspondance avec son frère révèle leur rapport privilégié à la France mythique de leur mère quand ils discutent ensemble par lettre des magazines La Victoire et France-Québec. Mais ses propos sur l'écriture déjà annoncent en teneur l'œuvre à venir. Le 10 septembre 1945, elle dit « Je crois que tout auteur qui publie un journal pourrait l'intituler « Mon évangile ». Un mois plus tard, elle confie à son frère « Je crois que c'est justement cette conscience de la perte des moments où l'on a été le plus pur, le plus ouvert, qu'on a le plus donné, où on a été dense, qui est la blessure des artistes. Plus que les autres hommes, ils sont sensibles au vide de leurs mains, eux qui ont possédé avec la conscience de la possession. » Elle note un peu plus loin « On devient écrivain, on est poète » et dit avoir lu Bonheur d'occasion. Plus tard encore, ses nouvelles lectures alternent avec ses lectures anciennes. Dans une entrevue accordée à Luc Perrault, le 24 septembre 1966, elle dit lire toujours Dostoïevski. Il faudra attendre 1970, et donc après l'écriture de son premier grand roman « Kamouraska », qui fait d'elle une romancière aujourd'hui traduite en 15 langues, pour qu'elle énumère les écrivains québécois qu'elle préfère. Marie-Claire Blais, Régent Ducharme, Roland Giguère et Jean-Guy Pilon, pour le Québec, parmi des écrivains européens, soit Claude Simon, Jean Cayrol, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Franz Kafka. Un an plus tard, dans un entretien pour le Sélection des libraires, elle énumère encore Dostoïevski et ajoute Claude Mauriac, Nathalie Sarraute. Dans Madame au foyer, en septembre 80, Anne Hébert ajoute les noms de Paul Chamberlain ou de Paul-Marie Lapointe à la liste des poètes québécois qu'elle affectionne. Cela devient presque une habitude pour elle d'énumérer les écrivains qu'elle lit, qu'elle a lus, qui l'ont marqué durablement ou qui l'intéressent depuis peu. Un entretien avec Jean-Pierre Salgas pour la quinzaine littéraire en mars 1985 voit de nouveau une longue liste paraître. Parmi ses plus grandes influences littéraires, des écrivains qu'elle a découverts vers l'âge de 20 ans, prend-elle soin de préciser, Anne Hébert mentionne Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Tchekhov, Dickens, Émilie Brontë, Proust, Claudel, Jouve, Dostoïevski, Claudel encore, Bernanos, Faulkner, James, Kafka, Sarraute et la Bible. Elle se dit impressionnée par des auteurs comme Marie-Claire Blais, Régent Ducharme et Victor Lévy-Beaulieu, mais elle les a lus trop tard pour qu'ils l'aient réellement influencée. Elle ajoute avoir lu dans sa jeunesse Maeterlinck, Verhaeren, Ramuse et Sartre. En 89, elle confie à Pierre Hétu de Nuit Blanche que, outre Tchekhov et Dostoïevski, Karen Blixen, James Joyce comptent parmi les auteurs qui l'ont marquée. Elle mentionne aussi Marie-Claire Blais, Régent Ducharme, Hélène Cixous, Nathalie Sarraute, Marcel Proust, Georges Bernanos, Arthur Rimbaud et Jeanne Lapointe, qu'elle fréquente amicalement ou à travers leurs œuvres. Enfin, dans un ultime entretien qui paraît dans Le Devoir en février 1995, elle dit lire une œuvre de Henry James. On a retrouvé dans sa bibliothèque des titres de tous ses auteurs, mais on remarque que ses écritures, ses lectures de la maturité sont à la fois des romans, des poèmes, et que toujours ses classiques à elle continuent de nourrir son œuvre, alors que ses contemporains, les livres qu'elle reçoit d'eux dédicacés, témoignent, en partie du moins, de ses réseaux de sociabilité littéraire. Ce sont parfois même, peut-on dire, des lectures de complaisance, dans la mesure où elle reçoit plusieurs livres qui lui sont donnés. Il faut aller voir ailleurs pour comprendre les lectures, donc, qui sont pour elle marquantes, déterminantes. Et ce sont bien sûr dans les rares liminaires qu'elle a produits comme documents publics que l'on peut constater ceux qui nourrissent sa poétique. Deux textes, livrés à plus de 30 ans de distance, sont révélateurs du patronage sur lequel elle choisit de se placer, tout en éclairant sur les changements de tonalité dans son œuvre poétique. Le premier texte est issu d'une lecture prononcée lors d'un dîner-causerie à l'Hôtel Queens de Montréal en décembre 1958, à l'occasion de la remise du prix Duvernay qui lui est décerné pour l'ensemble de son œuvre. Ce texte, Poésie solitude rompue, repris dans Mystère de la parole, fait de la poésie une expérience profonde et mystérieuse qui ne saurait s'expliquer, mais qui est liée à la vie, dont la parole dénoue la part obscure, procure de la joie et permet de tendre à une lumière. Proust est pour elle alors l'écrivain qui a su délivrer, par le privilège de la mémoire involontaire, une pareille clarté, qui est l'état de grâce poétique. Il va du cœur au monde par son incarnation particulière. Nous ne sommes pas très loin de certaines idées exprimées à la relève ou à la nouvelle relève. La lutte de l'artiste implique une attention constante à la grâce pour atteindre la plénitude de l'instant. Mais dès lors, René Char est convoqué pour avoir écrit que la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Ce qui importe est de rester disponible, fidèle à sa plus profonde vérité pour lui donner forme. Et Paul Valéry est convoqué aussi pour son désir de rigueur. Mais la rigueur ne concerne pas seulement la forme, souligne Hébert. Encore faut-il une rigueur dans l'honnêteté, selon une morale de l'artiste qui ne coïncide pas toujours avec l'œuvre édifiante ou engagée. La poésie, écrit-elle encore, est soif et faim, pain et vin. D'où la célèbre phrase de Camus, « Une littérature désespérée est une contradiction dans les termes ». Et ainsi, la poésie a-t-elle pour, entre autres vertus, de rompre la solitude. C'était dans les années 60. Dans le texte qui sert de liminaire au recueil « Le jour n'a d'égal que la nuit », et qui est issu d'un discours prononcé à l'occasion de la remise de la médaille annuelle par l'Académie canadienne-française en décembre 1984, Anne Hébert renoue avec l'idéal du poète à l'écoute du mystère. Je la cite, « Écrire un poème, c'est tenter de faire venir au grand jour quelque chose qui est caché. » Mais elle prend soin aussitôt d'ajouter que la ferveur ne suffit pas. Il faut la patience quotidienne de celui qui attend et qui cherche. Cette patience quotidienne me semble une valeur nouvelle de sa poétique, que l'on retrouve surtout dans les textes de la très grande maturité. Dans le liminaire du recueil de 92, elle ne convoque aucun écrivain pour illustrer son idée de la ferveur patiente. De la vie intérieure à l'univers extérieur, elle choisit plutôt de recourir à l'image d'une double manière d'être au monde, proposant, et je cite, « qu'une première fois le poète s'incarne fortement dans le monde, adhérant au monde le plus étroitement possible, par tous les pores de sa peau vivante. Une seconde fois, il dit le monde qui est autour de lui et en lui, et c'est une seconde vie aussi intense que la première. » La structure même du recueil présente cette double impulsion. Sous la forme de versets libres, certains poèmes de la première section valorisent, un peu comme dans « Mystère de la parole » paru en 1960, mais avec moins d'allégresse, une manière véhémente d'occuper l'espace et le temps, où le déploiement des forces cosmiques et le transport des sens étaient mis à contribution. Les poèmes qui figurent dans la seconde section renvoie plutôt à l'écoute patiente, au jour le jour, des signes du monde par un sujet moins expansif et plus prostré. Outre les manuscrits, dactylogrammes, médailles et photos, le service des archives de l'Université de Sherbrooke conserve des carnets de notes dans lesquels Anne Hébert a copié certains passages de ses lectures lors de la préparation et de l'écriture de ses romans et poèmes. Il semble bien que la fonction de ces carnets soit de relancer l'écriture d'un texte. Ces carnets se présentent souvent en effet comme des avant-textes. En général, figurent surtout dans ces carnets des listes de titres et des noms de personnages envisagés, quelques passages griffonnés qui éclairent la genèse de l'œuvre et des citations qui nous renseignent sur les lectures que privilégiait alors Anne Hébert. Sans se tromper beaucoup, on peut dire que les écrivains dont elle reproduit des passages de textes sont parmi ceux qu'elle a fréquentés dans sa jeunesse. Cette fois, la liste n'est pas exhaustive. Marcel Proust, Franz Kafka, Pierre-Jean Jouve, Paimpol, Shakespeare. On retrouve aussi dans ses carnets un intertexte important de Baudelaire et de Rimbaud. Ces citations, qui ne sont pas toujours reprises en exergue à ses romans, forment un matériau riche et important au moment où elle envisage une nouvelle création. Ils agissent en quelque sorte comme des déclencheurs. Ainsi, on trouve au tout début du carnet qui accompagne l'écriture de Kamouraska à la fin des années 60, deux citations très significatives au moment pour elle de composer l'un de ses textes les plus importants. La première, de Proust, renvoie à l'idée, chère à ses yeux, de la part obscure et silencieuse en nous, qu'il s'agit d'éclairer par le privilège de l'écriture. L'idée de vérité s'y trouve d'ailleurs associée. Et je cite, « Les vrais livres doivent être les enfants, non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence. » De même, c'est le pouvoir libérateur des mots qui se trouve au cœur des propos de Kafka, dans le passage d'une lettre de celui-ci à son ami Oscar Pollack, qu'elle recopie. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Nulle mention dans ce carnet n'est faite à Shakespeare ou à Rimbaud, mais on se souviendra que dans Kamouraska, au moment où, fiévreuse et alitée, Élisabeth Daunière veut retrouver en songe le docteur Nelson, sa belle-mère s'écrie, selon la libre traduction de l'expression de Shakespeare, « Tout ça, c'est du théâtre ». Une citation que l'on va retrouver aussi dans le Premier Jardin en 88. Et Élisabeth de penser, en réplique à cette belle-mère, « Je dis je et je suis une autre », et de se remettre à rêver. On aura reconnu, bien sûr, l'allusion à Rimbaud. Dans le carnet « Les fous de Bassan », un roman publié en 82, on retrouve surtout des références à la mer, au désir ou à l'adultère. Qu'elles viennent des évangiles, de Saint Matthieu ou de Saint Paul, de Hans Christian Andersen, qu'elle a lu quand elle était jeune, de Pierre-Jean Jouve, celles-ci ont en commun de se rapporter au désir. Dans le livre, on retrouve en exergue pour chacune des 6 parties, outre ces citations, une d'Hélène Cixous, une autre de Shakespeare et une enfin de Rimbaud. L'intertexte biblique semble plus structurant dans les carnets que dans le roman. Mais dans ce carnet, donc, qui accompagne l'écriture, on note aussi des réflexions. Des réflexions sur l'élaboration du roman. Elle dit ainsi « Je sais bien d'ailleurs que je ne devrais pas me décourager. C'est normal de rencontrer la résistance lorsqu'on écrit. Vivre un texte, c'est éprouver sa propre vie qui se défend pas à pas, jusque dans ses derniers ébranchements. Une suite de corps à corps avec soi-même, dont l'auteur serait le prétexte. » Là, je vous présente différentes images des carnets. Ce n'est pas nécessairement en lien avec la citation que je viens de vous lire. Mais dans toutes ces images, il y a une citation. Peut-être que c'est parfois difficile à lire. Mais ici, vous avez des passages de Saint Matthieu, Saint Paul juste ici en haut. Dans le carnet qui accompagne l'écriture des poèmes « Du jour n'a d'égal que la nuit », c'est un passage de Proust qui sert de guide, encore une fois. Elle cite « C'est que dans l'état d'esprit où l'on observe, on est très en dessous du niveau où l'on se trouve quand on crée. » Les carnets révèlent bien plus encore. Qu'elle envisage en 84 l'écriture d'un récit, par exemple, sur Paul et Camille Claudel, où elle s'adresse directement à cette dernière, et je cite « Mon enfant, ma sœur, à la sœur de Shakespeare. » Et elle note « Toute ressemblance avec des personnages réels n'est ni fortuite ni involontaire. » Ce récit semble un désaveu de celui qui fut autrefois l'une de ses 2 grandes rencontres poétiques. Elle note « Boucler la boucle avec la dernière visite de Paul. » Et parlant de Camille, « Condamné au néant, il survit pourtant par son œuvre et par le souvenir poignant de la femme dans toute sa force, crucifiée. » Elle ajoute un peu plus loin, « Est-ce que je vais reprendre les grandes images de Claudel et mêler étroitement sa création à la folie de sa sœur ?» On est en 84. Elle choisira plutôt d'écrire « Le premier jardin », un roman sur une relation mère-fille qu'elle publie en 88. Parmi les titres envisagés, elle encadre « La ville interdite ». Quelques titres encore. Le trait rimbaldien « Je » est une autre. Le trait hébertien « Mon cœur au point ». Ou le trait beckettien « En attendant les beaux jours ». Il y a aussi « Alice au pays des merveilles ». Mais le roman « Le premier jardin » tout entier peut se lire comme un salut à Shakespeare. « All the world's a stage ». Et se présente comme un hommage rendu à Beckett dans la mesure où la comédienne Flora Fontage revient à Québec, sa ville natale, pour y tenir le rôle de Winnie dans la pièce « Oh les beaux jours » de Beckett. Pour l'enfant chargé de songes, roman qu'elle publie en 92, elle envisage une autre série de titres très littéraires, dont « Une leçon de ténèbres »,« Ardentes ténèbres » et « La géante ». L'influence de Baudelaire se fait sentir par la liste des titres quelque peu altérés de ses poèmes en vers ou en prose qu'elle semble énumérer de mémoire. Anywhere out of this world plutôt que the world. Spleen de Paris, le goût du néant, le squelette laboureur, danse macabre. De Rimbaud, elle retient le carnet de damné plutôt que du damné, évoquant au passage le titre d'un autre poème, Le cœur volé de Rimbaud, et note, concernant son propre personnage, à la fin, Julien ne trouve ni cœur ni désir. Plusieurs autres mentions de Rimbaud figurent dans ce carnet. Charmante et grande passion, l'immobile le peine. Elle griffonne à la hâte des notes que lui inspire sa lecture de Rimbaud et qui deviendront autant d'attributs prêtés à son personnage Julien. Et je cite, « Son état de fils du soleil a jamais perdu, l'histoire d'un pauvre raté. Comment pouvait-il oublier qu'un jour lointain, il avait été le fils du soleil ?» Ici, dans cette ville échangée, personne ne pouvait s'en douter. Mieux valait le petit salon de la rue Cartier, son espace était et familier et le rire ancien qui y prenait racine. On trouve aussi dans ce carnet une référence à un vers du poème Moesta et Erubunda de Baudelaire, mais le vers paradis des amours enfantines, qui devient chez Hébert et au vers paradis des amours enfantines. Pêle-mêle encore diverses annotations. Le titre d'une pièce de Couperin, Leçon de ténèbres, qui se retrouvera dans le roman. De l'intertexte biblique, ici commencent les lamentations de Jérémie, qu'on retrouvera aussi au tout début du roman. La simplicité des formes et le principe de composition sont toujours aussi valorisés. Elle écrit « Enlever des fioritures, scander davantage, rythme plus dru, plus rapide, ou bien encore « Alterner les monologues intérieurs de Julien et de Camille, ponctués de ci, de là, de petites phrases brèves et réalistes. » Deux citations de Claudel, enfin, sur le commerce des vivants et des morts et sur les forces destructrices des ténèbres. On se souviendra que dans le roman, elle se trouve à l'église sous le pilier Claudel. Il se trouve à l'église sous le pilier Claudel lorsqu'il rencontre Camille Jouve. Dans le carnet qui accompagne l'avant-dernier roman publié en 98, « Est-ce que je te dérange ?», on constate que les grandes préoccupations pour le mystère et les impulsions surnaturelles fascinent toujours autant. Anne Hébert, comme en témoignent les différents titres envisagés pour ce roman, à savoir « La route des anges ou une mort naturelle »,« Une mort imaginaire » ou « Mademoiselle Bistouri », ce dernier titre, qui pas plus que les autres n'a été retenu, révèle l'influence profonde de Baudelaire sur l'œuvre. On se souviendra en effet que l'auteur du Spleen de Paris a donné ce titre à un de ses poèmes en prose, où le narrateur consent à se faire passer pour un docteur, dans la mesure où une jeune femme névrosée, à tout le moins énigmatique, le croit médecin, en vertu de son désir à elle, qui se révèle bientôt être une idée fixe. Ce poème, qui se termine par une prière du narrateur adressée au Créateur avec un grand C, est la curiosité du Créateur avec un petit C, qui demande à Dieu pourquoi il a mis pareil goût de l'horreur en son esprit et pourquoi il y a en ce monde pareille monstruosité. C'est en confrontant les discours d'Anne Hébert sur la littérature à différents moments de son existence qu'on a voulu faire ressortir l'évolution des influences de l'écrivaine à travers le temps et faire un lien aussi entre ses lectures et son écriture. On a pu constater que c'est dans les carnets ou sous forme de mentions dans l'œuvre que l'on trouve le plus de références explicites à Baudelaire et à Rimbaud. Pour elle, même le roman doit être poétique. Elle dégage de ses lectures de Kafka et de Proust des principes de composition utiles en intime relation avec sa conception esthétique. Jusqu'à la fin, le mystère reste central si on se fie encore au carnet. Ainsi, en 95, et je la cite, « Je crois qu'on ne peut plus appréhender le roman d'une façon réaliste. Cette grande manière a déjà donné tous ses feux. Peut-être s'agit-il d'un volcan endormi qui couve en secret son futur éclat. Pour le moment, je ne vois rien venir, en français du moins. Pour moi, la seule réponse vivante au roman, c'est la poésie. Par elle seule, le cœur étrange du réel, au-delà du connu et de l'explicable, risque d'être touché dans sa plus grande profondeur et son mystère intact et pourtant rayonnant. » Alors, de nouveau le mystère, de nouveau la lumière. Dans d'autres romans, pourtant, elle se souvient de ses premières lectures, celles de Pierre-Jean Jouve et de l'intertexte biblique qui lui fournissent des motifs imaginaires précieux sur les forces du mal. Une autre lecture de jeunesse, celle de Claudel, qui se trouve dans un premier temps très valorisée. Et puis c'est l'œuvre de sa sœur, Camille, qui la fascine dès 84. Les forces de l'inconscient semblent lui parler davantage que la foi. Ou bien a-t-elle alors la foi en l'inconscient? On comprend ainsi qu'elle ait donné le nom de Camille Jouve à l'un des personnages de l'enfant chargé de songes. Ce titre, comme l'a vu Marie-Andrée Lamontagne, en rappelle un autre, de François Mauriac, qu'elle a lu encore aussi très jeune, et qui est l'enfant chargé de chaînes. Les listes de titres dans les carnets révèlent par ailleurs l'importance de la lecture dans les périodes de composition. De Saint-Denis Garneau, elle retient, outre l'isolement de certains personnages, la sobriété du ton. mais elle doit beaucoup plus encore à ce dernier. Outre qu'ils aient partagé ensemble des lectures et son amitié, elle a appris avec lui à regarder la lumière, elle a appris l'offrande de l'artiste et l'intensité du regard. Merci.
Madame Ouattène. J'inviterai les gens qui ont des questions à s'avancer au micro parce que nous sommes en balado-diffusion demain. Vous pourrez entendre sur le portail de BANQ la conférence de Madame Ouattène. Et donc, l'échange, ce serait bien de vous avancer au micro. Merci.
Oui, bonjour. Vous avez cité Bonheur d'occasion au passage. Mm-hmm. Je m'excuse, mais j'ai pas fait le rapport avec l'influence qu'il peut avoir sur Anne Hébert. J'aimerais aussi savoir si Gabriel Leroy aurait eu une influence sur Anne Hébert ou qu'est-ce que Anne Hébert connaissait ou aimait de Gabriel Leroy.
Ce que je sais, moi, c'est que c'est une lecture qu'elle a faite alors qu'elle avait 30 ans, qui était donc plus impressionnante que marquante, là, si on suit l'objet principal de cette conférence, mais que lorsqu'elle a écrit Kamouraska, Gabriel Leroy lui a fait une très belle lettre en ce sens-là, et que lorsque j'ai évoqué tout à l'heure Bonheur d'occasion, c'était un moment où elle commence à réfléchir sur l'écriture et en fait, où elle note des impressions d'ensemble. Et elle est très profonde à ce moment-là et tout de suite ajoute « Je viens de lire Bonheur d'occasion ». Donc, on peut penser, oui, que cette lecture ait été importante pour elle.
Merci.
Votre propos est limpide. Nous allons y rêver, y réfléchir et repasser à nos lectures aussi. À moins que les gens veuillent plutôt discuter en intimité avec vous. S'il n'y a pas d'autres questions, vous avez encore le temps. Merci beaucoup.
Je vous remercie.